Thanks. This is the CWG Stewardship Working Session in the Padang Ballroom on February 11th, 2015, from 1715 to 1915.
Hi everyone, just to let you know, we'll be...
Bonjour à tous, sachez qu'on va commencer cette réunion très très rapidement.
Right.
Jonathan Robinson au micro. Bonjour à tous, on va commencer cette réunion. Je crois que tout est en place, transcription, enregistrement, tout. Merci à tous, bienvenue à cette réunion. Il s'agit d'une réunion publique du groupe de travail, intercommunautaire sur la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Vous voyez ici l'ordre du jour qui figure à l'écran. Il y a 9 points à cet ordre du jour et nous avons inclus vers la fin un point 7, une séance de micro ouvert, sachant qu'il s'agit d'une réunion publique, comme je l'ai dit. Donc nous aimerions vous laisser l'opportunité d'intervenir, laisser l'opportunité aux personnes qui ne sont pas membres d'intervenir. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue aux membres et aux participants du groupe de travail ainsi qu'aux observateurs et ceux qui s'intéressent aux activités de ce groupe de travail. Bienvenue également à nos collègues, aux coprésidents du groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité. En particulier ceux qui participent à la section 4 de l'ordre du jour. Et j'aimerais rappeler que ce groupe de travail, que dans ce groupe de travail, les membres et les participants contribuent au débat sur un pied d'égalité. J'aimerais vous demander à tous de vous connecter sur Adobe Connect parce que nous allons gérer les échanges sur Adobe Connect comme si nous étions à distance, et nous allons également faire participer les gens à distance, parce que tous les membres ou participants de ce groupe de travail ne sont pas ici dans la salle. Tous n'ont pas pu venir ici à Singapour, hein, tous les participants qui ont auparavant participé à des réunions face à face. Donc, comme je l'ai dit, nous allons avoir une séance micro ouvert pour vous laisser l'occasion d'intervenir et de participer. Lorsque vous prenez la parole au micro, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter, dire votre nom et confirmer si vous êtes membre ou participant. Il ne s'agit pas de faire une distinction entre l'un et l'autre, mais simplement de savoir si vous êtes membre ou participant. J'aurais dû commencer par souhaiter la bienvenue à ma coprésidente, Lise Feur. On est tellement habitués à travailler ensemble l'un l'autre que j'ai oublié de la présenter. On s'est réunis hier pour préparer cette réunion. Donc, sous le point 1 de l'ordre du jour, j'aimerais faire quelques commentaires liminaires. Et peut-être que le premier de ces commentaires à faire, c'est de dire que jusqu'à présent, depuis octobre de l'année dernière, notre groupe travaille de manière très sérieuse. Nous avons accompli beaucoup de travail, de jour, de nuit, pendant les week-ends, pendant les vacances. Je sais que certains d'entre vous ont travaillé pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis. Beaucoup ont travaillé pendant les vacances de Noël. Et je crois que le groupe n'a cessé de déployer des efforts pour accomplir ce travail et relever ce défi. On vient à Singapour avec un projet de proposition. En décembre, on a eu des commentaires publics sur ce projet de proposition qui, bien entendu, a été partagé ici à Singapour. Et comme vous le savez, et je ne vais pas rentrer dans le détail de cela parce qu'on a eu des séances d'information sur ce point, il y a eu un document de discussion qui a souligné des points saillants et des questions brûlantes auxquelles nous nous sommes confrontés. Donc ce document avait pour objectif de stimuler beaucoup de débats, des questions supplémentaires qui n'ont pas été soulevées dans le document et a suscité beaucoup d'intérêt. Nous, en tant que coprésident et coordinateur, demandons vos réactions, vos retours d'information. Donc, nous nous réjouissons de tous ces retours d'information. Il est très utile d'avoir les membres du personnel qui nous aident, qui travaillent dans les fonctions IANA. Il est très bon de pouvoir leur parler, d'entendre leur point de vue et qu'ils puissent participer aux côtés de la communauté. Et je crois que ça a été très utile, en tout cas pour ce qui me concerne. Et en effet, comme ce groupe l'a reconnu et d'autres l'ont également fait, d'autres l'ont dit. Donc, demain matin, on a une séance questions-réponses et nous espérons pouvoir reprendre ce document de discussion. Lise et moi-même sommes les coordinateurs de ce groupe RFP. Nous avons discuté des feedbacks qu'on a obtenus de ces sessions et ce que l'on a entendu également dans les couloirs. Et nous pensons, en tout cas Lise et moi-même, qu'il nous faut revoir peut-être un petit peu notre approche. Et j'aimerais revenir sur trois points par rapport au fait de savoir comment avancer à partir de maintenant. À savoir, nous pensons qu'il faut continuer à avancer et progresser. Et il faut qu'on voit qu'on progresse. Je crois que l'un des problèmes, c'est que on a beaucoup travaillé dans ce groupe, mais on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il est très important de produire des résultats tout en continuant à travailler dans ce groupe et que ces résultats soient patents pour tous. Il est clair, d'après les plans que nous avons déjà soumis à l'ICG et d'après notre analyse de la situation, qu'un plan fonctionnel et qui peut être mis en place et qui soit complet est nécessaire. Et l'urgence de ce plan est également nécessaire. Donc, ce que l'on peut faire en poursuivant nos activités et notre travail, c'est de nous assurer qu'on se concentre sur les exigences fonctionnelles de ce type de plan avant de poursuivre quelque type de travail que ce soit. Ce serait très utile parce que cela nous permettrait de comparer les références par rapport aux exigences fonctionnelles et nous assurer que nous sommes bien en équivalence avec ces exigences. Bien, je pense que j'en ai fini pour ces commentaires liminaires. Nous pouvons passer à un autre point de l'ordre du jour. Je vais faire une pause pour vous demander si vous avez des commentaires, des questions, avant de poursuivre et passer au point 2 de l'ordre du jour. Est-ce que les membres et participants de ce groupe de travail, ici présents dans la salle, ont des questions ou des commentaires à faire? Bien. Sachez que si vous voulez faire un commentaire, vous pouvez intervenir sur Adobe Connect. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vous connecter à Adobe Connect, vous pouvez ici en salle lever la main. Bien, clairement, la sécurité et la stabilité est au cœur de la mission de l'ICANN et est explicite dans la transition de supervision. Le comité ESSAC et l'organisation charte de ce groupe de travail a produit des matériaux pertinents à cet égard récemment. Donc nous avons pensé qu'il était très utile, il serait très utile d'écouter de la part de représentants du ESSAC davantage d'informations sur ce document récemment élaboré. Donc c'est un plaisir d'avoir une personne qui représente ESSAC qui vient par magie de s'installer à mes côtés. Soyez le bienvenu. Je vous cède la parole. Bonjour. Je suis Patrick Fallström, président du comité ESSAC, et j'ai Ross Mundy à ma droite, qui est la deuxième personne à ESSAC, qui est membre du ICG. Je suis également coprésident de l'ICG, mais je suis ici en tant que président du ESSAC. Ce que nous voulions, c'est vous faire un résumé, vous donner un aperçu du contenu de ce document numéro 69. Ce document passe en revue un certain nombre de questions liées à la transition du rôle des fonctions IANA. Le document 67 donne un aperçu, un historique des fonctions IANA, passe en revue ce que l'IANA fait, a fait et pourquoi il le fait. Le document 68 passe en revue le contrat entre le département du commerce et l'ICANN par rapport aux opérations de l'IANA, parce qu'il y a une différence entre ces deux aspects-là s'agissant des fonctions IANA. Donc c'est important de savoir de quoi il s'agit quand on parle des fonctions IANA, des fonctions de l'ICANN, etc. Ces deux documents ont pour objectif d'être objectifs dans leur description. Le document 69, quant à lui, c'est le point de vue du ESSAC sur ce qui devrait être fait. Les lecteurs du document 69 du ESSAC peuvent choisir de suivre ou de ne pas suivre les recommandations du ESSAC. Ce document décrit la manière dont le NDIA contribue à la stabilité et à la résilience des fonctions IANA. Donc, nous avons identifié ce que le NDIA fait. Il présente des questions et soulève des problèmes qui, d'après le ESSAC, devraient être traités par la communauté afin de préserver la sécurité, la stabilité, la résilience et les fonctions IANA pendant et après la transition. Ce document fait également des recommandations sur chacune des questions et des problèmes soulevés. Nous pensons que toute proposition pour remplacer tout changement de la zone racine et toute alternative devrait être au moins aussi résistant et résilient et sûr que le processus actuel. Nous pensons que des dispositions efficaces devraient être prises afin de garantir des résultats sûrs et en temps et en heure sur tous les aspects du processus de gestion de la zone racine. Nous pensons également que le NDIA devrait préciser le processus et le cadre juridique associé au rôle du maintien de la zone racine après la transition. De plus, savoir si ce document défini dans le contrat IANA devrait être retenu et si des contrôles externes supplémentaires sont nécessaires ou s'il en faut moins, et savoir qui devrait les administrer. Il devrait également définir s'il existe des mécanismes en dehors des fonctions IANA, s'ils sont suffisamment solides pour que l'opérateur des fonctions IANA soit responsable. Sinon, il faudra mettre en place des mécanismes supplémentaires en termes de responsabilité. De plus, il va falloir voir quelles sont les sanctions et restrictions, les protocoles pour obtenir des licences OFAC à la suite de cette transition. Étant donné l'importance de la transparence et la liberté d'une influence non légitime dans la performance des fonctions IANA, il faudra peut-être envisager des mécanismes supplémentaires ou des sauvegardes. De plus, il faudra garantir des processus de développement de politique afin de garantir que toutes les instructions données à l'opérateur des fonctions IANA soient claires et puissent être mises en place. Jonathan au micro. Merci, Patrick et Russ. Y a-t-il des questions destinées à nos collègues du ESSAC? Patrick? Patrick au micro. Oui, j'aimerais également dire que le ESSAC vous remercie de l'occasion qui nous a été donnée de pouvoir présenter cela. Je m'excuse, je dois vous quitter car j'ai une autre question. Mais j'ai pensé qu'il était important que nous soyons là. Jonathan au micro. Oui, mon impression en voyant cela, c'est que vous êtes une organisation charte de l'ICG, de notre groupe de travail, pardon. Et donc, comme organisation charte, vous êtes en position d'approuver ou de refuser la proposition si vous ne la trouvez pas satisfaisante. Et ce qui me frappe, c'est que ce que vous avez produit, c'est finalement une liste de contrôles de haut niveau comme base. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir garder présent à l'esprit parce que c'est une orientation très utile. Ross au micro, oui, j'aimerais également féliciter le groupe qui a travaillé là-dessus. Et je vous engage à regarder les documents SAC 67 et 68 et de lire leur contenu parce qu'ils contiennent des recommandations et vous comprendrez davantage les recommandations contenues dans le document 69. Je suis d'accord avec vous, d'une manière générale, Jonathan, pour dire qu'effectivement, le document 69 va constituer un aspect important de ce que le ESSAC va dire à propos des résultats. Patrick au micro, oui, j'aimerais expliquer ce qui concerne le processus. Nous avons deux membres du CWG. Donc ce n'est pas simplement nous deux, Ross et moi-même, qui sommes membres du CWG. On nous a demandé au ESSAC de produire un document de point de vue commun. Donc ce document, on l'envoie au CWG et ensuite Robert et Jap, qui participent au groupe, vont participer sur un pied d'égalité avec les autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent négocier, ne pas être d'accord. Donc c'est envoyé comme la position du ESSAC et ensuite, lorsque le document sera prêt pour qu'on l'approuve, alors oui, on va le comparer avec ce document. Mais si tel est le cas, si la conclusion du CWG ne correspond pas à notre point de vue, ça ne veut absolument pas dire qu'on ne va pas approuver le document. Jonathan au micro, oui, c'est très important cette précision. On peut le prendre comme une orientation, négocier ce document. C'est très utile de savoir ça. Merci de votre réaction. Je vois une main levée, Greg. Merci, Greg Chatton au micro. Je crois qu'il va falloir travailler de manière très prudente vis-à-vis de ce document et très vite. Il faut voir un par un les sections, les chapitres. Et je crois qu'il va falloir que nous débattions de ce que l'on fait par rapport à chacun de ces points dans ce document. Bon, bien sûr, ça ne figure pas à notre du jour aujourd'hui. Nous n'allons pas étudier maintenant le document ESSAC 69. Mais lorsqu'on connaîtra bien à fond ce document, il va falloir penser au processus. Même s'il y a des questions sur lesquelles nous parvenons à des conclusions divergentes, il faut voir si finalement on est d'accord ou pas sur le produit final. Je pense que c'est important de le dire, Jonathan, au micro. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, effectivement. Greg, c'est la première chose qu'on va faire à la fin de cette réunion. Patrick ? Patrick Fallström au micro. Heureusement, je n'ai vu personne sortir en courant. J'aimerais dire que la plupart des gens qui ont lu le document SAC 68, hein, par rapport à ce qui est couvert par le contrat des fonctions IANA et ce que l'on a découvert dans le SAC 69, à savoir que le NDIA participe à ces opérations, ça donne lieu à une liste beaucoup plus courte que ce que l'on pensait. Donc, il ne s'agit pas de compliquer votre travail, mais de le simplifier, parce qu'on parle de moins de choses. Il s'agit de moins de choses que ce que l'on pensait. Et c'est dans cette mesure que nous pensons que ce document va aider la communauté.
Thank you, Patrick. And just to capture that action item, Grace, I think it is all to review SAC 67, 68, 69. That's clearly the homework for the group, as it were.
Travail de l'équipe, et il faudra revoir le SAC 69. Et je crois que nous allons constituer un groupe plus petit, un groupe de travail plus petit, qui pourra en fait faire ressortir des points saillants pour le reste du groupe.
Okay, I think that gives us the opportunity to move.
Je crois maintenant que nous pouvons passer au point numéro 3 de notre ordre du jour, donc une mise à jour sur le comité pour l'élaboration de la politique et sur la question du conseil juridique. Vous voyez que Greg Shatton du comité client va nous présenter cette question. Nous avons un comité client composé des coprésidents, de moi-même, de Lisa, de Greg. Merci Jonathan. Gregory Shatton au micro. Je voulais donc vous dire un petit peu où nous en sommes en termes de clients. Nous avons identifié environ une demi-douzaine de cabinets d'avocats qui, à notre avis, ont les compétences, les capacités nécessaires pour nous conseiller par rapport aux questions qui nous préoccupent. Nous pensons que les compétences fondamentales que nous recherchons ont trait à la gouvernance d'entreprise. Et donc, nous avons identifié certaines des personnalités les plus prééminentes dans ce domaine. Et nous avons des cabinets d'avocats multinationales qui ont de l'expérience, qui ont des collègues aux États-Unis ainsi qu'à l'international. Et donc, quelles que soient les opinions, les conseils dont nous aurons besoin, ils pourront nous les procurer. Nous travaillons actuellement par le biais de différents processus avec chacun de ces cabinets, de manière à faire connaître leurs compétences, tout d'abord au comité client. Et si les autres problèmes ne sont pas résolus, eh bien, nous pourrons les présenter à la communauté. Bien sûr, nous souhaitons que le processus soit relativement rapide. Parce que de toute évidence, tant que nous n'avons pas engagé quelqu'un, nous n'aurons pas de conseil juridique. Donc, il est un petit peu prématuré pour l'instant de parler d'un cabinet spécifique. Mais au fur et à mesure que nous aurons davantage d'informations, davantage de détails, nous pourrons être plus transparents lorsque le moment sera venu. Nous travaillons avec le service du contentieux de l'ICANN, parce qu'il est absolument critique que les avis soient indépendants. Et puis également qu'ils soient vus comme indépendants de la part de toute la communauté. Eh bien, il existe des moyens de le faire, des moyens prescrits de le faire, avec des règles de déontologie qui existent. Donc, on ne va pas inventer de processus pour nous assurer que l'ICANN soit vue comme une entité qui obtient des conseils juridiques. Nous sommes dans un processus que nous espérons pouvoir avoir établi d'ici la fin de ce mois, j'espère. Les cabinets d'avocats qui sont intéressés sont prêts et nous sommes prêts également à commencer à travailler avec eux. Nous travaillons quotidiennement dans ce domaine. Nous travaillons avec le CCWG en termes de responsabilité. Donc, les questions que nous avons, les compétences dont nous avons besoin sont similaires. Et donc, nous sommes en train d'informer les cabinets d'avocats sur les particularités du travail de l'ICANN, de l'histoire de l'ICANN aussi. Parce qu'en fait, on connaît très bien Liana. On ne pensait pas qu'on la connaissait autant, Liana. Je crois que nous avons beaucoup avancé. Nous espérons avoir davantage de choses à vous dire dans un avenir proche. Mais pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie. Nous suivons notre calendrier et donc nous obtenons les avis juridiques dont nous avons besoin. Je pense qu'en fait, les compétences dont nous avons besoin ne vont pas changer. Jonathan Robinson, il y a quelques mains qui se sont levées dans la salle. D'ailleurs, je souhaite rappeler aux participants de donner leur nom avant de parler. Alors, nous passons le micro à la première personne qui a levé la main. Bonjour, Aparna Shrida, je suis avec Google et donc je vous pose une question au nom de Google. Pour ce qui est du comité des clients, il serait très utile de comprendre comment est-ce que vous avez défini un client aux avocats potentiels. Parce qu'en principe, lorsqu'on a un client, c'est relativement clair. On connaît quels sont ses objectifs à ce client. Il est très facile de répondre aux questions, d'avoir différentes options. Mais le client, lorsqu'il représente un ensemble de parties prenantes qui ont différents intérêts, différentes préoccupations, différentes idées sur les solutions possibles, eh bien, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que vous avez traité cette question et comment est-ce que vous l'avez présentée aux avocats éventuels. Grégory Chatan, au micro. Pour nous, le client, c'est ce groupe de travail. Et donc, la manière la plus simple pour moi de penser à ça, c'est un petit peu de se dire qu'il y a un comité spécial, un conseil d'administration d'une société, par exemple. Mais pour un comité, en fait, les avis demandés sont un petit peu différents de celui de la société. Donc, le conseil est différent de la société en lui-même. Et comme dans tout comité, vous allez avoir différents intérêts, vous allez avoir des désaccords. Et donc, nous pensons qu'ils vont pouvoir nous donner leur avis sur les buts et puis également quel est le problème que nous souhaitons résoudre. Les différentes personnes pourront poser différentes questions, mais en fin de compte, c'est le client qui prendra la décision et non pas l'avocat, vous le savez. Donc je pense que nous pourrons obtenir des conseils sur ce dont nous avons besoin. Bien sûr, lorsqu'on donne des conseils à un groupe de personnes qui se sont rassemblées et qui ont des opinions différentes, de toute évidence, alors, n'oublions pas que si on a beaucoup de questions, il coûtera cher, n'est-ce pas? Mais je pense que vous aurez cette opportunité de poser vos questions. Et bien sûr, il faudra parler financement. Nous n'avons pas de chèque en blanc, mais voilà un petit peu comment nous procédons. Je m'appelle Sharon Diji, je viens du Nigeria, je fais partie du CWJ. J'ai quelques questions par rapport à cette question. Je n'ai pas eu de réponse à ma question que j'avais déjà posée, donc j'aimerais la répéter. Ma question, Greg, est la suivante. Le processus de sélection, on en parlait. Est-ce qu'il y a une liste publique qui est archivée où on pourrait voir le niveau d'exigence? Est-ce que vous avez informé les clients à sélectionner? Donc, j'aimerais un petit peu poursuivre la discussion. Deuxièmement, la deuxième question est en lien avec la première. Il est important que nous puissions comprendre ce dont vous parlez, parce que le client va présenter un rapport sur le résultat, sur le processus de ce CWG. Donc, il est important d'avoir un suivi. J'aimerais savoir aussi quel est le calendrier exact. Actuellement, je crois que le délai est février, je crois, ou mars. Mais quel est le calendrier exact? Quand allez-vous nommer? Quand allez-vous avoir une réponse? Il serait bien d'avoir un calendrier spécifique pour que nous puissions faire le suivi. Greg Chatan au micro. Merci. Pour l'instant, c'est une discussion qui se fait par email. On pourrait mettre en place une liste email publique. Le comité juridique du CCWG, donc responsabilité, a déjà une liste séparée qui est mise en place et on pourrait le faire nous aussi. Alors, pour l'instant, nous sommes en train de discuter de la question de qui engager. Donc, une fois que nous aurons engagé un cabinet d'avocats, nous allons leur donner des instructions. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes uniquement au point d'identification des compétences et ensuite d'engagement. En termes de calendrier, j'ai demandé à différents cabinets d'avocats de me fournir des documents qui me présentent leurs compétences. Et ce document, nous pourrions le faire passer. Je sais que j'ai étudié un petit peu ce domaine de la gouvernance dans l'entreprise et je commence à mieux comprendre. Mais bien sûr, vous avez tous, vous aussi, vos propres connaissances. Notre liste est suffisamment longue et la liste est pratiquement prête à être réduite pour identifier un cabinet. Je pense que effectivement, d'ici la fin du mois de février, nous devrions être prêts à engager un cabinet d'avocats. Mais je crois que, en tout cas, au cours des semaines à venir, nous devrions pouvoir terminer le travail. Pour l'instant, nous sommes encore en discussion. Nous nous déplaçons beaucoup. Et nous essayons d'avoir des lettres d'engagement. Nous essayons, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Aparna, nous essayons de parler du travail assez unique que nous faisons. Donc, bien sûr, les lettres d'engagement vont être un peu plus longues à rédiger. Et puis, l'ICANN paye les factures, mais l'ICANN n'est pas directement présente au sein du comité. Donc, j'espère que, au cours des quelques semaines à venir, donc d'ici la fin du mois, j'espère que nous pourrons avancer assez rapidement. Jonathan Robinson, je regarde un petit peu la montre. Et si je ne la regarde pas, je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre qui va me le dire. Donc, on va peut-être passer au CCWG, à la responsabilité, au travail que nous faisons pour coordonner nos efforts ensemble. dont bien sûr le travail juridique dont nous venons de parler. Donc j'invite les coprésidents de ce groupe à venir au bureau qui est à l'avant de la salle. Donc, nous avons avec nous Thomas Rickett et Matthew Will, et vous allez nous donner une petite mise à jour du travail que vous avez fait en termes de coordination. Matthew Will, au micro. Merci beaucoup de nous avoir invités pour vous faire cette petite mise à jour. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez sans doute été en contact avec cette présentation que nous allons vous faire. Et donc, je vais vous donner simplement les grands points et ceux qui sont le plus en lien avec le travail du CWG, de manière à inciter la conversation et à ne pas non plus prendre trop de temps. Il y a certainement des thèmes dont vous avez déjà parlé. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante ? Donc, pour vous rappeler un petit peu rapidement quel est le travail du CCWG? Oui, nous avons commencé en retard, en début décembre, donc beaucoup plus tard que votre groupe, et nous avons commencé notre travail à partir de l'énoncé du problème que vous avez à l'écran, c'est-à-dire que le point de vue de la communauté après l'annonce de la NTIA par rapport à la transition, c'était donc que la responsabilité de l'ICANN n'était pas suffisante pour pouvoir avancer dans la transition. Donc, en plus de la transition des fonctions de l'IANA, il y avait besoin d'augmenter la responsabilité de l'ICANN. Et donc, c'est là où nous en sommes actuellement. Donc, en termes d'ampleur, donc nous avons la responsabilité de l'ICANN qui est donc interdépendante avec votre travail et liée avec votre travail. Alors, en ce qui concerne le travail, il y a deux pistes de travail. Premièrement, la piste 1, sur laquelle nous nous concentrons principalement parce que c'est ce qui doit être fait avant la transition. Et donc, pour récapituler, nous sommes tous dans la même situation. Nous cherchons à faire avancer la transition aussi rapidement que possible. Ensuite, en termes de statistiques, nous avons 5 organisations membres. La GNSO, avec Sherris Thomas, ALAC, avec Léon Felipe Sanchez, coprésident. Il s'excuse, il n'a pas pu venir. Le GAC, qui est également organisation membre, et la SO d'adressage. Et donc, vous pouvez voir les statistiques à l'écran. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine diversité, mais notre groupe est aussi large que le vôtre en termes de nombre de participants au total. Donc, il est tout à fait similaire. Il y a beaucoup de points communs en termes de membres. Ensuite, donc la première chose que nous avons décidé de faire, c'est de nous assurer que nous parlions bien des mêmes choses. Donc, nous avons parlé des définitions sur la base de plusieurs questions. Premièrement, est-ce que la communauté veut... Donc, la communauté souhaite que ICANN soit responsable, mais par rapport à quoi? Donc, législation applicable, arriver à certains niveaux de performance. Donc, ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est lié avec votre travail dans ce groupe. En tout cas, je m'y attends. Et s'assurer que les décisions sont pour le bénéfice du public et non pas pour un ensemble spécifique de parties prenantes. Donc, c'est un document que nous sommes en train de réviser à l'externe, de faire réviser à l'externe. Donc, notre objectif, c'est réellement d'améliorer la responsabilité de l'ICANN par rapport à ces points. Nous avons également passé beaucoup de temps à parler de la définition de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la transparence? Est-ce que c'est la consultation? Il y a aussi la question des vérifications et des appels. Donc, ces définitions sont les nôtres, mais si à un moment ou à un autre vous pensez en tant que CWG que vous devez faire votre propre définition. Ensuite, nous avons les parties prenantes. La liste est très longue. Il y a des parties prenantes qui sont affectées par la décision de l'ICANN, donc nous devons faire attention à l'impact. Il y en a qui sont affectées directement. Et donc, il faut reconnaître le fait que chacun est pris en compte dans les décisions. Et puis, bien sûr, de l'autre côté de la balance, il y a les parties qui sont influencées par l'ICANN, et donc, ou plutôt ceux qui ont un impact sur l'ICANN, directement ou indirectement, la législation, l'environnement, etc. Donc, vous avez un petit peu un cadre de travail assez standard que nous vous présentons pour nous assurer d'avoir les bonnes bases. Ensuite, diapositive suivante, les contingences. Très souvent, on nous a dit que nos propositions de l'ICG, donc les vôtres et les nôtres, seraient examinées par la NTIA, mais aussi par des observateurs externes. Et qu'elles seraient testées par la contrainte. Donc, nous avons beaucoup parlé de contingence, d'identification des menaces, des conséquences. Donc, il nous a fallu pouvoir tester les mécanismes. Nous en avons 25 pour l'instant. Et il est tout à fait possible que votre groupe en identifie d'autres que nous n'avons pas vus. Donc, l'échec des obligations opérationnelles, par exemple, si les obligations opérationnelles n'étaient pas atteintes, les actions législatives ou juridiques, donc annulation de politique ou retrait d'une partie d'une mission, ou alors les manques de responsabilité, donc tout ce qui serait un agissement en dehors du mécanisme de responsabilité de l'ICANN. Donc, par exemple, si le responsable de l'organisation agissait en dehors de son rôle, et l'échec, ou plutôt le manquement à la responsabilité par rapport à des parties prenantes externes. Donc, si, par exemple, l'ICANN cherchait à agir en dehors de son mandat. Donc, voilà le type de contingences que nous prenons en considération et qui seront testées, en fin de compte, par rapport à nos propositions. Donc, le travail est en cours et demain, nous avons beaucoup avancé dans ce domaine. Et donc, je vous invite à vous rendre à notre réunion de demain matin, 7h du matin, avec le petit déjeuner.
Nous avons eu une réunion à Francfort en janvier, face à face, pour définir quelles étaient nos exigences pour mettre en place un processus approprié sur la piste de travail numéro 1, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être mis en place ou ce sur quoi on doit s'engager avant la transition. C'est ce que je vais présenter, ce sont les points qu'on est en train d'envisager et ce que l'on va pouvoir faire à l'avenir. Et il y a deux catégories là. D'abord, la communauté qui a certains pouvoirs et un renforcement du processus de révision et de redressement. Ça, c'est la première exigence. Et j'aimerais faire une pause là-dessus. En disant qu'on a commencé avec des définitions, les exigences, puis on développe des solutions. Il s'agit d'une approche que l'on adopte afin de nous assurer qu'on part tous sur la même base de définition et qu'on a un mandat clair sur notre objectif avant d'en venir à un débat de fond. Donc c'est de haut niveau, mais voilà le type d'approche qu'on adopte. Donc, piste de travail numéro un, vous verrez un certain nombre d'exemples que l'on considère comme étant des pouvoirs pour la communauté, comme l'approbation de plans stratégiques, l'opposition à une décision du conseil d'administration, remplacement d'un membre du conseil d'administration. Voilà un petit peu les outils dont on dispose pour autonomiser et donner plus de pouvoir à la communauté. J'aimerais dire qu'il y a également les changements des statuts, approbation de la communauté vis-à-vis des changements des statuts. Ça, c'est l'un des éléments qu'on est en train de considérer. Et je sais qu'il y a un lien entre les options qui sont actuellement sur la table pour ce groupe de travail. Sur la piste de travail numéro 2, concerne les mécanismes de révision et de redressement. Là, il s'agit d'une révision des mécanismes existants en partant du principe qu'il doit y avoir quelque chose de contraignant à un moment ou à un autre. Donc, c'est voir dans quelle mesure les processus sont contraignants ou devraient l'être, et quel est le résultat. L'affirmation d'engagement, ça fait partie également des choses qu'on examine. Donc peut-être qu'on peut se pencher davantage sur les mécanismes de dernier ressort et également ce que fait le comité de recours indépendant. Enfin, diapo suivante, calendrier. Il a été élaboré en coopération avec Liz et Jonathan. Nous avons d'ailleurs eu des téléconférences chaque semaine. Et nous allons présenter nos propositions pour commentaires publics d'ici début avril et les présenter d'ici la fin mai. Mais tout comme le cas de votre groupe, c'est le scénario le plus optimiste que nous présentons ici. Voilà ce que j'avais à dire par rapport aux nouveautés. J'ai essayé d'être aussi bref que possible. Jonathan, est-ce que vous voulez parler de la lettre ou est-ce que vous voulez ouvrir le débat? Jonathan au micro. Oui, c'est une séance de groupe de travail. Il faut laisser l'opportunité à tout le monde et autant que possible d'intervenir, de faire des commentaires. Je crois que ça a été une présentation très intéressante. Je crois que, étant donné qu'on travaille ensemble et qu'on travaille dur, il est possible que l'on trouve d'autres domaines, par exemple celui qui concerne le comité de recours indépendant. Il est peut-être prématuré de dire que qu'à mesure que nos définitions et nos exigences deviennent plus claires, il est possible que les responsabilités puissent se recouper entre nos deux groupes. Donc pour nous, il est important de continuer à travailler ensemble pour nous assurer que nos exigences soient aussi claires que possible pour que l'on puisse développer des solutions et que ces solutions qui découlent et émergent de vos groupes nous servent. Mais si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à le faire parce que c'est quelque chose de très intéressant. Le CCWG a travaillé dur et nous, en tant que coprésidents, ça nous intéresse beaucoup. C'est important pour l'efficacité de ce processus et tout effort que l'on pourra effectuer pour garantir l'efficacité de ce groupe sera le bienvenu. Thomas. Thomas au micro, oui, vous pourriez peut-être reprendre l'email qu'on vous a envoyé il y a quelques jours. Et j'aimerais faire quelques commentaires là-dessus par rapport à ce qu'a dit Mathieu. Mathieu a dit qu'on a établi, d'abord mis en place un statu quo. Les mécanismes existants en termes de responsabilité et les périodes de commentaires publics, on a regardé les définitions et ensuite on a vu les exigences. Donc ce qu'on a fait, c'est ce que l'on fait d'habitude dans le développement de logiciels. D'abord, on met en place un statu quo, on regarde les exigences sans prendre en considération la mise en œuvre. Et lorsqu'on est bien clair et unanime sur les exigences, alors la mise en œuvre n'est finalement pas si importante parce que les exigences priment sur la mise en œuvre. Donc on a besoin, d'après moi, d'un avis juridique pour mettre en place un modèle de mise en œuvre, mais on a besoin d'un avis juridique, on ne parle pas de mise en œuvre. On a avancé progressivement et ce qu'on aimerait faire demain matin, c'est de faire en sorte que notre travail soit plus agile. On essaie de faire les choses petit à petit et pas en parallèle. On essaie de confier à chacun des tâches qui peuvent être réalisées en temps et en heure. Et on a essayé d'identifier les domaines. C'est d'ailleurs dans ces domaines-là qu'on a eu des communications avec vous. Des domaines où on a été très efficace d'ailleurs. Et on s'est rendu compte dans les téléconférences qu'on était beaucoup trop polis les uns envers les autres. Parce qu'on a des chartes qui disent bien clairement ce que les deux groupes sont chargés de faire. Et on a été très prudent pour essayer de ne pas empiéter sur les plates-bandes des autres. Donc, on travaillait sur la transparence et on nous a demandé quelles étaient vos exigences. Bien. On nous a demandé ensuite quelles étaient vos exigences en termes budgétaires par rapport à la transparence. Je pense qu'il faut arrêter cela. Dites-nous quelles sont les données qui sont importantes pour vous et nous, on va s'assurer qu'elles font partie des exigences. Et ce que l'on a également fait, et Bruce a beaucoup contribué là-dessus, Bruce a dit, je vais vous donner les données sur les coûts actuels des opérations IANA. Et ils vont nous les fournir d'ici quelques jours. Donc, si nous sommes suffisamment ouverts et honnêtes les uns envers les autres, on peut avancer. Et je pense que c'est dans cet esprit qu'on devrait essayer de travailler ensemble davantage. Et ce, à tous les niveaux, non pas seulement au niveau des coprésidents. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font partie des deux groupes de travail. Et pour ce qui concerne les exigences et les exigences communes, je pense qu'on peut répondre à vos besoins. C'est ce que nous essayons d'exprimer avec nos déclarations de haut niveau et avec nos communications qui ont suivi. Mais j'espère que j'ai été suffisamment claire. Je pense que c'est dans cet esprit que l'on veut obtenir davantage d'informations de votre part. Par exemple, la transparence au niveau du budget, ça c'est en cours, on va obtenir les données de la part de l'ICANN, votre groupe va réviser cela et une fois qu'on a les données nécessaires, alors on va pouvoir diviser cela en coûts. Commentaire suivant, responsabilité par rapport aux redélégations. Nous avons eu beaucoup de discussions sur ce point et pourtant, là encore, nous avons été très prudents pour prendre en considération la sensibilité des opérations CCTLD pour ne pas suggérer que le conseil d'administration allait prendre des décisions de fond sur les extensions géographiques. Donc, nous voulions être clairs sur le fait que nous allions mettre en place des mécanismes de responsabilité dans la mesure où le conseil d'administration et le personnel avaient lui aussi un rôle à jouer par rapport au mécanisme de responsabilité. Et la question de la délégation et de la redélégation ne devrait pas se faire au détriment de ce que l'on est en train de faire. Et comment vous le voyez-vous ici dans ce groupe ? J'espère que nous allons pouvoir présenter des mécanismes de révision et redressement, également pour la délégation et redélégation, Et nous allons nous assurer que l'on ne va pas traiter de cela. Ça va être traité ailleurs. Jonathan au micro, oui. Je voudrais signaler que sur le chat, il semblerait y avoir un soutien unanime pour travailler ensemble en étroite coopération et qu'il y ait un va-et-vient entre les groupes pour parvenir à une solution unique ou tout du moins intégrée. Thomas Rickert au micro, y a-t-il des commentaires sur la responsabilité en termes de délégation et redélégation? Alors, n'ayez pas peur qu'on empiète sur vos plates-bandes s'agissant de délégation et redélégation. C'est quelque chose qui va toucher et impliquer les décisions de fond qui devront avoir lieu dans les pays. Alors, révision indépendante des actions du conseil d'administration. Ça, c'est quelque chose que, même si nous n'avons pas encore spécifié les choses, je crois que vous pouvez être sûr que notre groupe va mettre en place des processus, plusieurs processus, semble-t-il, pour donner à la communauté la possibilité de réviser des décisions du conseil d'administration ou de les approuver. Donc, par exemple, l'approbation budgétaire, si la communauté n'est pas d'accord avec cela, alors on le renvoie au conseil d'administration et on leur dit, voilà, il faut que vous le refassiez. Donc, il y aura ce type de mécanisme sur lesquels vous pourrez compter. Et jusqu'à présent, peut-être qu'il y a des mécanismes de révision ou de redressement qui peuvent être déclenchés par la communauté autonome et d'autres qui sont sujets à une révision indépendante où aucune partie prenante qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts impliqués dans la décision ne peut participer. Donc, il est très probable que nous ayons un comité de recours indépendant. Et il est probable que nous puissions présenter un mécanisme où nous allons pouvoir couvrir vos préoccupations. Donc, que cela fasse partie de l'architecture générale. Encore une fois, sachez que les décisions de fond concernant les extensions géographiques ne seront pas prises par le conseil d'administration de l'ICANN ou la communauté de l'ICANN. Elles seront prises par un panel indépendant. Donc il s'agit de voir quelle va être la composition de ce panel. Mais je pense que nous avons déjà certaines idées et notre groupe reconnaît déjà le besoin d'une révision indépendante ou d'un panel indépendant. Jonathan au micro. Donc, Thomas, ce que vous avez dit, finalement, ça concerne surtout les compétences du panel. Et donc, avant même de penser aux compétences de ce panel, vous avez pensé aux exigences et à la portée de ce panel. Et donc, dans le cadre des fonctions IANA, vous avez pensé à la raison d'être de l'existence de ce panel. Oui, rapidement, Mathieu au micro, il faut s'assurer qu'on a une liste de contrôle sur le mécanisme de responsabilité, qu'on suit bien tout ce processus pour s'assurer qu'on ne va pas passer trop de temps à revoir les différents éléments qu'il faut fournir. Jonathan au micro, là encore, je pense au temps et je pense au fait qu'il faut voir comment nous allons travailler et structurer notre travail pour l'avenir. De plus, il faut créer une opportunité également au cours de cette réunion pour que vous puissiez intervenir au micro. J'ai l'impression que vous nous avez fait une excellente mise à jour des travaux de votre groupe et vous nous avez donné matière à réfléchir également sur la manière dont on peut travailler ensemble, échanger des mails. Je n'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'une autre réponse par mail. Je pense qu'on est clair sur ce que l'on est en train de faire. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires là-dessus avant de clore ce point de l'ordre du jour et passer au point suivant? Thomas. Thomas au micro. Oui, je regarde le chat. Je vois qu'il y a un commentaire qui dit qu'on ne devrait pas perdre le contrôle de ce que l'on doit faire. Ça n'est absolument pas l'intention ici. En fait, il s'agit de tirer parti de ce sur quoi nous travaillons. Nous avons un modèle standard pour mettre en place des mécanismes de responsabilité. Donc, on va parler d'accessibilité, de normes en termes de procédures, de composition des organes de prise de décision et également de moyens pour évaluer ces mécanismes. Donc, tous ces éléments n'auront pas forcément le même format, mais il faut qu'ils s'inscrivent tous dans l'architecture générale. Ne perdez pas de vue le fait que vous avez des besoins spéciaux et spécifiques. Mathieu au micro, oui. Ici, ce qu'on vous propose, c'est de soutenir et non pas de réviser toute la portée. La responsabilité de présenter une proposition est dans votre camp. Nous, on va l'analyser, on va très certainement donner notre feu vert en utilisant nos compétences, mais il s'agit de travailler sous votre orientation, à partir de vos exigences. Et je voulais souligner ce point-là, parce que je comprends que c'est une question sensible. Jonathan, au micro. Oui, il est utile de lire les commentaires sur le chat. Mais si quelqu'un a besoin ici de prendre la parole en salle, n'hésitez pas à le faire. Bien, ce point 4 à l'ordre du jour est clos. Merci beaucoup à Thomas et Mathieu de leur intervention. Point suivant. En fait, les points 5 et 6 sont liés les uns aux autres par rapport à notre travail à l'avenir et la manière dont nous allons travailler à l'avenir. Pour aborder ce point, j'en parle avec Lise depuis ces derniers jours. Pour voir quelles sont les opportunités, parce que on peut être pris dans le piège d'une discussion qui tournera autour des différents modèles. Et ces modèles n'ont pas simplement à voir avec une situation spécifique, mais il y a eu beaucoup d'efforts déployés pour savoir ce que l'on pourrait faire dans un scénario extrême si une sorte de séparation est nécessaire. Alors, que devrions-nous faire? Mais nous avons également toute une proposition à écrire qui inclut cela, mais pas seulement cela. Donc, ce que nous aimerions faire, c'est nous concentrer sur le développement d'une proposition qui donnerait lieu très certainement à un document de proposition. Pour commencer à élaborer ce document, pour essayer de voir quel serait l'aspect de cette proposition et du produit fini, y compris des références au SAC, au document SAC 69 et aux autres documents mentionnés auparavant. Les différents sous-comités ou groupes qui, à l'origine, étaient divisés, comme vous le savez, en fonction des réponses aux sections et aux demandes de propositions de l'ICG. Donc, on a appelé ces groupes RFP 1, 2, 3, 4, etc., pour répondre à ces différentes composantes. Comme vous le savez, RFP 1 et 2 ont finalisé leurs travaux et on essaie de développer les propositions pour le RFP 3 et le sous-groupe RFP 3B.
Nous pensons qu'il pourrait être plus efficace de ramener le groupe à un travail plus efficace en travaillant ensemble. Et dans la mesure où les gens contribuent à ces groupes, il pourrait y avoir des petits groupes qui, en fait, font un rapport à l'ensemble du groupe toutes les semaines. Donc, on parlait du sprint, du processus agile, donc se focaliser sur des produits livrables clés qui alimenteront un document général qui nous donnera à son tour une carte de route de ce que nous serons, que nous suivrons. Donc les SLA, les IAP, donc avoir une sorte de module qui puisse être branché directement dans le document général. Et bien sûr, les questions qui concerne les questions vraiment clés, donc les avis juridiques, etc. Donc nous avons des coordinateurs de RFP qui pourront être responsables de certains domaines du document, mais je pense que intégrer les groupes, travailler comme comité de l'ensemble, comme sous-comité d'un ensemble, à mon avis, serait peut-être plus efficace. Je pense que nous allons continuer de nous appuyer sur un seul processus, donc un seul document. J'aimerais utiliser le fait qu'il y a des propositions correspondantes. Je crois qu'il y a les paramètres de nombre et de protocoles qui ont été soumis à l'ICG déjà. Et donc, il me semble que faire des références croisées serait quelque chose de bien. Premièrement, parce que cela pourrait guider notre processus de pensée dans le développement de notre document. Et deuxièmement, cela est en lien avec ce que nous faisons dans la mesure où c'est approprié. De manière à ce que nous ne soumettons pas quelque chose à l'ICG en nous rendant compte qu'en finalement, il manque des liens et des points. Une des préoccupations principales de l'ICG, c'était qu'il ne voulait pas avoir à revenir en arrière, avoir un cycle de références, de questions, etc. Donc, nous pensons que en procédant de cette manière, je crois que nous arriverons à respecter notre calendrier. L'autre avantage serait que si nous avons un document sur lequel nous travaillons avec des modules, nous pouvons verrouiller ces modules, les avoir pratiquement terminés et ensuite simplement les copier dans le document final, ce qui permettra d'avancer rapidement. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de votre point de vue? Donc, nous allons en fait discuter de 5 et 6 ensemble, parce que 6, c'est un petit peu une liste ouverte. Et on pourrait se dire, bon, on va définir un groupe de travail qui va travailler sur telle ou telle chose. Donc, encore une fois, il y a les propositions, il y a SACS 69, il y a l'analyse. Donc, en continu, on va se dire, bon, il nous manque ceci dans notre proposition, il nous manque ceci, il nous manque ceci. Soit on y travaille, soit on le met dans un état en attente et on reprend ensuite où on en est pour le document. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des questions, des points de vue. Je vois que la main de Marika est levée. Donc, on va donner la parole à Marika d'abord. Marika, au micro. Je parle pour James Gano, qui participe au CWG. Est-ce qu'on peut réellement avancer à ce niveau sprint alors que le débat au niveau plus élevé doit encore être débattu, n'a pas encore été résolu? Jonathan, au micro. Il y a encore des mains levées. Donc la question a trait au fait si on en est au point où on peut le faire. Il me semble qu'on doit travailler de manière en même temps. Il y a le débat interne-externe, c'est clair, mais à la base, c'est une question spécifique par rapport à un problème spécifique. Et actuellement, il y a une limite à notre progrès tant que nous n'avons pas avancé dans le domaine juridique. Donc je ne suggère pas que nous ignorions ou que nous abandonnions ce problème spécifique, mais je crois que c'est quelque chose qui peut être fait en parallèle avec d'autres domaines critiques que nous devons, dont nous devons nous occuper. Lisa, au micro. J'ai vu Paul Kane sur le chat, sur les CC et les GTLD, et sur leur rassemblement sous forme de SLA. Jonathan, au micro. Nous avons Matthew, qui va prendre la parole maintenant. Matthew Vail, coprésident de CCNSO. CCWG, pardon. Coprésident de CCWG. Je m'y perds, moi aussi. Pour répondre à la question à distance, nous ne pouvons pas soutenir ni fournir de l'aide quelque chose qui n'a pas d'exigence très définie. Il faut qu'il y ait des exigences définies à l'avance. Mais je crois que cela dépend de vous. Vous allez devoir décider si la structure générale est nécessaire pour pouvoir même commencer à travailler sur les mécanismes. Ou alors, si vous souhaitez commencer par travailler vos exigences qui sont nécessaires pour l'opération et ensuite laisser la question opérationnelle pour la suite. Et en fait, c'est quelque chose qui doit être décidé par le CWG, c'est une question de choix. En termes de notre soutien, il est tout à fait possible que ce soit indépendant de la structure générale. Jonathan Robinson, au micro. Je crois que oui, les exigences doivent être détaillées, de toute évidence. Non seulement cela nous aidera à mieux travailler, mais cela nous aidera lorsqu'on vous transfère quelque chose. En plus, il n'y a rien qui nous arrête pour faire le travail, par exemple, sur les SLA. Cela n'a aucun impact sur le travail des exigences ou sur les propositions pour les solutions internes, externes. Je suis tout à fait confiant que nous pouvons faire ceci en même temps. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y en ait un qui remplace l'autre. Nous avons des mains levées. Il y avait Matthew. Ensuite, passons à Robert. Robert Geer, je suis membre de ESSAC et du CWG. Par rapport à certains points qui ont été mentionnés, j'aimerais exprimer mon soutien. Donc, Robert Gra, encore une fois, je suis membre du CWG et j'aimerais exprimer la méthode de travail qui est agile. L'idée de créer des petits groupes, des petits sous-groupes très focalisés qui puissent développer des tâches, c'est une bonne idée à mon avis. Et nous n'avons pas mentionné non plus le fait que nous avons une date cible. Et je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais moi, j'appuierai cette idée. Jonathan Robinson. Je ne sais pas si c'était le terme agile, mais peu importe. Ce sont des petits groupes de travail. Ce ne sont plus des sous-groupes, mais en tout cas des domaines d'activité poussés. Et j'apprécie votre soutien. Paul Kane, au micro. Premièrement, j'aimerais vous dire félicitations à tous les différents groupes qui ont fait le rapport sur les sections 1 et 2. Il y a eu également beaucoup de temps qui a été investi dans le processus. Et l'ICANN soutient l'idée d'avoir des petits groupes de travail focalisés. Il est très bon. En tant que gestionnaire de CC, je crois qu'avec mes collègues, nous serions prêts à concevoir des attentes de niveau de service pour l'IANA. Je pense que Donner, Keith de la communauté de GLT serait d'accord. Donc, voilà un premier petit groupe qui pourrait s'occuper de questions spécifiques relativement efficacement. Et nous pourrions ensuite faire un rapport au grand groupe. Ensuite, Milton, au micro. Milton Miller, au micro. Je suis d'accord avec eux. Et comme premier commentaire, j'aimerais dire que je ne veux pas que nous soyons distraits. En tant que membre de l'ICG, ce qui nous préoccupe en termes de calendrier, c'est de savoir quand est-ce qu'il y aura une proposition consensuelle du CWG. Ce qui vous ralentit ne semblerait pas être des questions relatives aux petits groupes, mais c'est le modèle fondamental. Sera-t-il acceptable? Donc, moi, je ne suis pas opposée à la création de groupes de travail qui peuvent faire certaines choses en attendant l'avis juridique. Mais j'aimerais également qu'on puisse penser à des options pour résoudre certains des débats, certaines des discussions qui existent sur les questions internes et externes. Moi, je ne pense pas que ce soit insoluble ni impossible à réconcilier. Pour moi, ce sont des choses dont on doit parler de manière plus rationnelle, de manière moins polarisée. Donc, n'oublions pas ce point. Jonathan Robinson au micro. Milton, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en ce sens, ça peut être justement un groupe de travail. Et tant qu'il y existe une certaine convergence de pensée, en principe, cela réduit nos besoins juridiques. Je ne suis pas sûre, mais il est possible que cela pourrait réduire la quantité d'avis dont on a besoin si nous convergeons avant même d'obtenir si nous nous mettons d'accord avant même d'obtenir cet avis d'expert juridique. Il pourrait y avoir un petit groupe justement qui se focalise là-dessus et à ce moment-là, on pourrait en arriver à un résultat plus efficace. Eduardo au micro. Eduardo Forirec, je n'ai jamais participé dans un environnement de travail agile. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui fonctionne, surtout quand il y a les différents fuseaux horaires à prendre en compte, etc. Et j'aimerais savoir si vous avez une idée de la manière dont on gérerait ceci au sein de ce groupe. Jonathan Robinson au micro. Je ne sais pas. Le principe, c'est l'agilité. Cela ne veut pas dire que nous allons nécessairement appliquer la méthode de développement de logiciels agiles. Je pense que l'idée, c'est de se rencontrer une fois par mois. Les petits groupes pourraient se retrouver autant qu'ils veulent en utilisant les mêmes outils. Et il y aura rapport au grand groupe. Peut-être qu'en une semaine, ils vont dire « Voilà, nous pensons avoir une solution. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Oui. Ou alors, ils vont nous dire « Bon, nous avons du mal dans ce domaine. » Et puis, ils vont revenir à notre groupe et ce cycle pourra se produire souvent. Mais le groupe général ne perdra jamais le contrôle. Eduardo, au micro. Je crois que c'est ce que nous faisons actuellement avec notre RFP, nos RFP 3D, etc. Pour moi, je ne vois pas la différence là, je ne vois pas le changement. Jonathan Robinson. Oui, ce n'est pas une différence fondamentale, mais c'est une division du travail en plus petits morceaux parce que tous les groupes s'occupent de questions fondamentales. On pourrait, à mon avis, avancer plus rapidement sur un certain nombre de points. Donc, séparer le travail en petits morceaux plutôt et avoir des réussites dans ces petits domaines, à mon avis, améliorera la productivité ainsi que le sentiment qu'aura le groupe en général d'avancer un petit peu. On passera le micro à Greg et il est 6h45. Donc, il nous reste en fait une demi-heure. Je pensais qu'il nous restait 15 minutes. Donc, nous avons davantage de temps que je le pensais. Mais Greg au micro, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'Eduardo a dit. Je crois que le 3B, c'est un petit peu une transition entre l'approche générale qu'on avait, puisque le RFP 3 répondait à toute la question, comment est-ce qu'on y arrive ? Et le 3B, c'était une première étape de division du travail. Et maintenant, nous en sommes à cette méthodologie à diviser des petits morceaux de travail. Donc, je crois que le 3B est tout à fait similaire au style de travail que nous avons adopté auparavant. On se disait au départ, le RFP 3 allait tout résoudre. Donc, c'était un petit peu trop généralisé. Donc, voilà où on en est. Jonathan Robinson, au micro. Merci. Tant que le groupe principal reste la Grande Avenue, je crois que nous avons toujours ce grand document et c'est important. Lisa au micro. Il nous reste 30 minutes pour les questions-réponses, donc je pense que nous sommes dans les temps. Jonathan Robinson au micro. Donc, il nous reste une demi-heure. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir au micro, poser vos questions ou faire vos commentaires. Marika au micro. J'ai trois questions des participateurs à distance. Je ne sais pas si je les lis toutes les trois ou une par une. Donc, la première question vient de Mike Oscar. Est-ce que l'avis juridique viendrait d'un cabinet juridique qui s'occupe de gouvernance des entreprises aux États-Unis? Ou est-ce que cet avis juridique s'occuperait également des questions de juridiction? Jonathan Robinson. Nous en avons déjà parlé un petit peu, mais Greg va rajouter quelque chose. Greg Chatton au micro. Je dirais oui. Une des compétences fondamentales, la compétence fondamentale, c'est non seulement la gouvernance juridique aux États-Unis et en Californie. Maintenant, en termes de juridiction, si cette question se présente, je crois que le cabinet d'avocats que nous choisirons sera également en mesure de s'occuper de ce genre de questions. Ensuite, Marika, la question suivante. J'aimerais faire un suivi, Jeff, au micro, là-dessus. Donc, il y a des personnes dans cette salle qui ne savent pas qu'un document de cadrage détaillé a été préparé qui incluait les exigences, par exemple, de l'expertise en droit de Californie sur la gouvernance. Jonathan, au micro. Oui, il existe un document de cadrage qui, justement, couvre cette analyse. C'était en fait un point de départ pour l'avis juridique, mais effectivement, certains des principes, certaines des exigences nécessaires étaient inclus dans ce document. Question suivante, s'il vous plaît. Marika, au micro, au nom de Oscar Mike. Donc, développer un mécanisme de responsabilité dépendrait de la nature de l'entité pour laquelle elle est comment est-ce que on va s'occuper de cette contingence? Jonathan Robinson, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, Marika. Le Je pense que c'est plutôt pour le CCWG, me semble-t-il. Cette question s'adresse plutôt au CCWG. J'ai une autre question à poser. Donc, lorsque j'ai présenté le point 5 et 6, lorsque j'ai parlé de la méthode dont on a parlé, beaucoup d'entre vous ont répondu dans le chat. Et l'analyse des écarts, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai parlé en fait d'un conteneur qui serait en fait la base à partir de laquelle on créerait le point de départ de tout groupe de travail. Donc, vous avez votre question, votre exigence, votre petit groupe, etc. Et donc, nous avons créé ceci dans l'analyse des écarts. Vous avez les propositions, vous avez SAC 69, vous avez tout autre point de vue au groupe. Et donc, vous voyez, on voit tous les documents, mais ce qui nous manque, c'est ABCD. Et c'est un processus continu.
Right, I've got...
Bien, je veux Marika. Oui, je sais que vous avez encore une autre question, mais j'ai Siva. Donc, Marika, est-ce que vous pouvez revenir dans la liste des intervenants avec cette dernière question? Sila Subramanian, au micro. Il y a plusieurs propositions faites par les deux groupes de travail. J'ai l'impression que certains participants s'attachent plus à des propositions qui veulent créer de nouvelles entités. Et on n'accorde pas beaucoup d'importance à la solution, aux solutions simples qui sont internes. Il faudrait peut-être être plus à l'écoute d'idées simples en interne. Bien entendu, personne n'a une formule magique qu'il va proposer, mais si quelqu'un peut proposer une solution plus simple, ça ne va faire de tort à personne. Jonathan au micro, oui. Personnellement, je suis tout à fait disposée à cela. Plus la solution va être simple, mieux ce sera. Mais d'autres peuvent rétorquer, tout cela dépend de la définition qu'on a de la simplicité. Donc, effectivement, on doit avoir présent cela à l'esprit à mesure qu'on travaille. On doit toujours se poser la question, est-ce que c'est suffisamment simple? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre? En attendant, je vais céder la parole à Russ. Merci, Jonathan. Russ au micro. Je voulais faire un commentaire à titre personnel, en dehors du SAC, etc. Oui, je pense que ce document est très important et le groupe devrait les prendre en considération. Mais il y a un autre document qui, d'après moi, est très, très important, qui a été publié après le document SAC 69. Et ça a été toute une série de diapos résumés que le NDIA lui-même a publié concernant la gestion de la zone racine. Est-ce que le contrat de plus de 400 pages qui stipule très clairement que ce document du NDIA est probablement le meilleur résumé de ce que le NDIA pense qu'il fait avec la communauté depuis un moment. Et je pense que c'est particulièrement important. Jonathan, au micro, merci. Merci, c'est très utile de nous rappeler, en tout cas pour ceux qui ne le savaient pas, rappeler l'existence de ce document pour y revenir et l'analyser en profondeur. Deuxièmement, je vous rappellerai à tous que l'une des premières choses qu'on a fait, c'est passer en revue en détail ce contrat, et même si j'ai eu des conversations qui m'ont fait rappeler qu'il y a eu des études, je ne connais pas la teneur de ces diapos du NDIA, je connais la teneur du contrat lui-même, mais je crois que dans une certaine mesure, notre mission ne consiste pas à remplacer mot à mot le contrat, mais plutôt de voir comment avancer. Donc c'est un excellent commentaire. Le contrat est utile. Ces diapos du NDIA le sont, mais il faut avoir également une réflexion personnelle. Greg au micro, j'aimerais répondre. Nous avons examiné ces diapos lors de la dernière téléconférence du RPF 3. Mais sachez qu'on l'a examiné. Jonathan au micro, je n'ai pas participé à cette téléconférence, mais je crois qu'avec cette réflexion en tête, il faut l'avoir présent à l'esprit. C'est utile. Marika ? Marika au micro. Deux questions d'observateurs à distance, de Fanny. Par rapport à un commentaire et à une réunion de la GNSO, mettre en place des mécanismes contraignants, est-ce que cela ne va pas entraîner un blocage de certains pays pour des raisons politiques ? Jonathan au micro, est-ce que quelqu'un veut y répondre, Mathieu ? Mathieu au micro, oui, pour le CCWG, c'est un peu prématuré d'y répondre. Ce que je peux dire, c'est que ça fait partie des contingences. Et on va comparer nos solutions aux tests de stress, bien sûr. Jonathan au micro, Marie Oduma. Marie Oduma au micro. Je voudrais demander si dans l'analyse, nous allons pouvoir demander aux autres communautés concernées par les opérations qui ont soumis leurs propositions de participer au sous-groupe de travail. Jonathan au micro, oui, effectivement. Nous avons dit que nous allions lire les propositions des autres communautés et les analyser pour voir ce qu'il manquait. Mais bien entendu, toute contribution de quiconque de la communauté est la bienvenue pour identifier ce qui manque, les lacunes. Mais d'abord, c'est important pour notre propre indépendance, mais également pour la cohérence de notre travail vis-à-vis des autres gros bouts de notre groupe pour faire en sorte que le travail de l'ICG soit plus simple. Milton, bref commentaire sur cette description détaillée de ce que fait et ne fait pas le NDIA. On peut facilement se perdre dans tout cela. Est-ce que le NDIA, Ross dit que le NDIA écrit le contrat? Oui, il écrit le contrat. Et c'est lui qui donne le contrat. Et ça, c'est 80% du problème auquel on est confronté. Ça n'est pas écrit. Jonathan au micro. Merci, Milton. Marika? Marika au micro, au nom de l'ISOC Gambie. La question est la suivante. Est-ce que le principal objectif de l'organisation est de mondialiser l'accès à Internet? Qu'en est-il des plans d'action pour les endroits où les installations Internet ou la connexion Internet est défaillante? Jonathan au micro, ça ne fait pas partie des compétences de ce groupe de travail. Et je ne suis pas sûre que cela fasse partie. Est-ce que la question porte sur l'ICANN? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Thomas? Thomas au micro. Dans le cadre de notre travail, l'une des exigences consiste à dire que la communauté va devoir adopter un plan stratégique. Donc, pour ce qui concerne l'ICANN, le plan stratégique va très certainement inclure l'inclusion mondiale. Mais dans le cadre de cette mission mondiale, nous pensons que cela va rentrer dans le travail sur la responsabilité. Jonathan, au micro. Oui, bien sûr, quand vous faites référence à votre groupe, vous parlez du CCWG et de l'inclusion qui fait référence à l'inclusion de la participation des travaux de l'ICANN. Y a-t-il d'autres commentaires, questions des personnes qui souhaitent participer? C'est la fin d'une longue journée, en tout cas pour moi. Robert au micro, Robert Guerra. Oui, la différence entre cette réunion et le CWG, c'est qu'il y a des gens du NTIA et de l'IANA, il y en a plusieurs ici, et s'il y a des précisions, des questions à leur poser, c'est l'occasion ou jamais. Parce qu'ils vont pouvoir vous répondre. D'habitude, on n'a pas ce genre d'occasion. Et pour revenir à ce qu'a dit Rose, j'aimerais dire que l'IANA a fait une excellente présentation ce matin sur ce qu'ils font. Et parce qu'il y a ces excellentes présentations du NDIA et de l'IANA qui existent. Et d'ici quelques semaines, nous allons organiser un webinaire avec une version résumée des présentations qui ont été faites aujourd'hui. Merci. Jonathan, au micro, oui. Est-ce que vous avez envoyé un lien? Oui. Oui, peut-être que ce que l'on pourrait faire, c'est établir une liste de choses à lire. Donc, continuez à vous rappeler les uns aux autres du niveau d'expertise nécessaire pour le genre de lecture qu'il faut faire pour continuer à contribuer à notre groupe de travail. Et ça, c'est un point essentiel. Bien, nous allons clore cette séance de micro ouvert et passer au point suivant, révision des points d'action. Je vais céder la parole à Grace. Grace au micro. Merci, Jonathan. Sur la liste des points d'action, j'ai une liste pour réviser les documents ESAC, les propositions existantes de l'ICG. Je l'ai combiné avec le développement d'une liste de points d'action. Est-ce que vous seriez d'accord pour combiner ces deux points? Jonathan au micro, non, les objectifs sont différents. Le premier, oui, il faudrait les ajouter. Mais en plus, le sous-groupe de travail ou un ou deux individus devraient réviser ces documents pour contribuer à l'analyse, pour identifier les manquements ou les lacunes. Grace au micro. Oui, donc, un sous-groupe pour réviser les documents. Jonathan au micro. Oui, je ne sais pas si ce sera un sous-groupe ou une ou deux personnes pour réviser cela. Mais ce qui est important, c'est de réviser ces documents. Grace au micro. Deuxième point d'action. Réviser les documents. et proposer des éléments au CWG. Troisième point d'action, prendre en considération les autres communautés. Ça a été suggéré par Marie Oduma. Et développer la liste des sujets à lire qui a été demandée. Point supplémentaire par rapport à la liste de publipostage pour déterminer des sous-groupes de travail. Jonathan, le micro, oui. Les intitulés et la direction de ce sous-groupe devraient consister à analyser ce qui manque. Mais la liste n'est pas encore claire. On en a une sur les SLA. Ça a émergé au cours de cette réunion. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui m'échappent à l'instant. Mais bien sûr. Et la première chose à faire, c'est d'identifier les exigences et de commencer à identifier les solutions. Pensez-vous qu'il y a des actions qui sont apparues au cours de cette discussion qui ne figurent pas ici? Lise, oui, nous avons une suggestion de Sean pour avoir plus de transparence concernant le comité permanent de clients. Et il faudrait peut-être que cela figure dans la liste ou dans ce que l'on va mettre en place. Et je crois que Greg est d'accord là-dessus. Jonathan, au micro, oui, on va faire de notre mieux. Comme vous le savez, l'idée, c'était d'avoir un échange face à face. Mais si vous pensez qu'il faut davantage de transparence, alors on va faire notre possible pour le faire. Voilà. Merci beaucoup à tous de vos contributions. Merci à tous les membres et aux participants, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. J'allais lever la séance, mais je vois qu'il y a une main levée. Oui, il y a des documents 67, 68, 69. Et il y a des documents compliqués que certains participants lisent et d'autres non. Donc, serait-il possible que les participants qui aient lu ces documents les résument de sorte que tout le monde puisse comprendre la teneur des travaux du groupe de travail? Jonathan, le micro, dois-je comprendre que vous vous portez volontaire? Bien, c'est une bonne suggestion. ESSAC 69, par exemple, ce document est résumé dans la partie du résumé du document. Bien, merci à tous de votre participation et j'attends avec impatience de continuer notre travail dans les semaines à venir. Merci.